La culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en puisant du sens, écrit Biman Balataf. Madame, Monsieur, c'est donc sous cette pensée que votre émission Interligne prend son envol sur les ondes de la 105.5 MHz. Votre satisfaction, chers auditeurs et auditrices, reste notre préoccupation. Alors, faites comme chez vous et installez-vous confortablement à l'écoute de la radio qui réinvente l'avenir. Interligne, c'est votre émission qui, quand elle s'aligne, elle vous aligne également sur les rails de la culture, de la top mode, de la top tendance. Quoi de plus normal que de se libérer quand on sent la pression monter, quand on voit notre quotidien aller de mal en pire. Madame, Monsieur, venez vider vos cœurs, venez vider vos sacs. C'est ça la particularité des lignes internes d'Interligne. C'est le public qui fait Interligne. Interligne, c'est donc parti, soir au village, tape à l'œil et vide ton sac, comme toujours au rendez-vous. Maxino à la partie technique, Nicole Massaï à la réalisation, David Bayan à la supervision générale, l'idole Wawa au micro de présentation. Nous irons en voyage tout à l'heure dans le cadre de Soir au village et pour cette édition, nous avons déroulé le tapis rouge au peuple Mouyang, un peuple du département du Mayo-Sava. Dans le fauteuil de l'invité, Monsieur Bébé Théodore, secrétaire général de l'association des Mouyans à Maroua du nom de Kamdala. Il nous parlera de l'homme Mouyan dans son quotidien et de l'association Kamdala qui signifie en Mouyan rassemblement fraternel. Femme électricienne, femme moto-taxi, femme mécanicien et j'en passe, on en parle dans Tape à l'œil. Hors de question de définir des métiers d'hommes d'une part et ceux des femmes d'une autre part. Les femmes sont aptes et dynamiques à toute activité. Une initiative saluée et encouragée par bon nombre du public. Et dans Vie de ton sac que la question de la rareté des pièces de monnaie paralyse l'activité de plusieurs commerçants. Les clients aussi sont d'une part, d'une manière ou d'une autre, impactés par cette situation. Vous suivrez des plaintes d'ici et là dans peu de temps. Bienvenue à tous. L'espace réservé à la culture de ce jour nous amène découvrir un peuple du département du Mayo-Sava, le peuple Mouyan. Présent entre le canton de Tokombéré et Mora, l'agriculture et l'élevage constituent leurs principales activités. Le dynamisme et l'hospitalité font sa particularité. Pour mieux nous éclairer au sujet des Mouyans, de leur mode de vie et de leurs us et coutumes, Monsieur Bébé Théodore, il est secrétaire général de l'association Kamdala. Nous le recevons dans un court instant. Monsieur Bébé Théodore, vous êtes secrétaire général d'une association des Mouyans dénommée Kamdala, ici à Maroua. Merci de répondre aux questions de l'émission Interligne sur Radio Océré.
Merci à vous.
Dites-nous premièrement, qui sont les Mouyans et qu'est-ce qui, d'après vous, fait la particularité de ce peuple-là?
Les Mouyans sont un peuple parmi les peuples kurdes des monts Mandara. Aujourd'hui, nous les retrouvons dans le département de Mayo-Sava, particulièrement entre l'arrondissement de Tokombéré et l'arrondissement de Mora. ce qui fait la particularité d'un peuple Muyang. Bon, je ne sais pas, il y a plusieurs choses, mais déjà le dynamisme, c'est un peuple travailleur, un peuple hospitalier. Pour la majorité des cas, on les connaît beaucoup plus dans ce sens-là. Mais bon, d'une manière particulière, c'est un peuple comme tout autre peuple kurdes de Mont-Mandara.
Existe-t-il une façon peut-être particulière d'identifier un Muyang parmi tant d'autres ?
Façon particulière, peut-être déjà par sa langue. Les Muyang parlent leur langue, qui est aussi appelée Muyang, la langue Muyang. Ça, c'est déjà une particularité. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un peuple très dynamique qui fait dans l'agriculture, l'élevage et qui est beaucoup plus hospitalier. Ça, ce sont des choses en ce qui concerne les étrangers. On les connaît beaucoup plus dans ce sens. D'autres particularités, je les verrai peut-être. Bon, nous ne sommes plus en ce moment, puisqu'avant, on disait que le Muyang, c'est celui qui n'accepte pas qu'on le gouverne. D'ailleurs, on les connaît dans ce sens. Il y a un Muyang qui dit Wabournouaï pour dire que personne n'est au-dessus du peuple Muyang. Donc, c'est un peuple qui n'aime pas trop qu'on se mêle ses affaires. Donc, c'est à peu près cela. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux cantons Muyang parmi la majorité des peuples qu'on a de ce côté-là. C'est pour dire tout ce que je viens de vous raconter là.
D'accord. Et quelles sont les différentes activités qu'effectue le Muyang dans son quotidien ?
Dans son quotidien, le Muyang est agriculteur. Mmh. Il est éleveur. Mais avec les changements climatiques, tout ce que nous connaissons dans le Grand Nord aujourd'hui, le Muyang aussi essaie de s'adapter. Et aujourd'hui, ils sont particulièrement tournés vers la production des oignons. Donc, ils font un peu dans les cultures maraîchères. On les retrouve d'ailleurs dans la zone de Makangai, Baka et autres. Donc, mais ce sont des grands producteurs de coton. Et aujourd'hui, on les reconnaît aussi comme des grands producteurs d'oignons. C'est un peu le quotidien, mais le reste, bon, pour ceux qui sont à la fonction publique et autres activités de ce genre, ils travaillent, sont dans leur bureau comme tous les autres. Mais sinon, nous sommes éleveurs, agriculteurs. On n'a pas la chance d'avoir des forêts pour être chasseurs. Un peu de piège de temps en temps.
Okay. Maintenant, quelle est l'organisation présente au sein de la famille Muyang?
La famille Muyang est une famille, déjà la famille sacrée chez les Muyang. Donc, on peut parler beaucoup plus de la famille élargie. Il y a les grands-parents, c'est-à-dire les patriarches, qui donnent souvent leur nom au clan. Ensuite viennent les parents en direct, et puis on a les enfants, donc selon leur âge. Et je voudrais aussi rappeler que le droit d'aînesse est bien respecté. Et de manière particulière, au sein de la petite famille, le mari est le père de famille. Et la femme, c'est elle la maîtresse donc, de la famille, c'est elle la gouvernante, c'est elle qui gère le quotidien de la famille, tandis que le mari doit de temps en temps sortir pour se chercher. C'est là qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de Muyang qui partent un peu au-delà de leur territoire qu'on leur connaît pour se chercher de quoi rapporter un peu d'argent ou quelque chose de ce genre. Mais sinon, l'organisation directe de la famille, c'est la famille élargie avec donc les grands-parents, c'est-à-dire les patriarches et tout ce qui va avec.
Est-ce que le temps, la révolution industrielle, le modernisme et autres n'ont pas altéré cette façon-là de fonctionner?
Bon, le temps a beaucoup altéré l'organisation même de la vie de l'homme Muyang. Aujourd'hui, déjà au niveau culturel, il y a beaucoup de changements. On ne pratique plus trop notre croyance traditionnelle. Donc, qui voudrait d'ailleurs qu'on passe par les défunts, les grands-parents et les morts pour arriver à Dieu. Ce n'est pas pour dire que les peuples Muyang ne croient pas en un seul Dieu, mais nous avons des cultes donc appropriés pour les grands-parents. Aujourd'hui, les Muyang sont majoritairement chrétiens. Quelques rares musulmans, mais beaucoup plus sont catholiques et adventistes, quelques protestants aussi. Ça, c'est au niveau déjà culturel, ce qui fait que ça a changé notre manière de faire. Au niveau même de travail, même la production, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est plus trop dans le mil, on n'est plus trop dans les arachides. On est allé vers d'autres cultures venues d'ailleurs. On produit aujourd'hui un peu d'oignon, un peu d'ail, des tomates et tout ça, qui sont venus donc avec le modernisme enrichir nos activités quotidiennes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, au niveau des contacts, aujourd'hui, bon, nous allons déjà à l'école, ce qui a changé beaucoup plus nos activités. Donc, aujourd'hui, le Mouyan n'est plus celui-là qui, après les travaux champêtres, va chercher un peu le bilbilo au cabaret, mais il est beaucoup plus tourné vers d'autres choses. Mm-hmm. Il y en a qui sont devenus peut-être qui sont tournés vers d'autres activités. Peut-être, bon, je ne pourrais pas tout citer ici, mais il y a des activités de plus en plus modernes qui sont venues un peu se greffer ou bien changer carrément notre mode de vie.
Dans nos différentes contrées africaines, les soirs au village sont pour la plupart un moment récréatif de pur bonheur, divertissement et autres. Alors dites-nous, comment est-ce que sont vécus les soirs en terre mouillée?
Les soirs en terre mouillant demeurent toujours très riches. Et d'ailleurs, ce sont des moments, comme vous l'avez dit, des purs moments de joie. Mais il y a on pourra peut-être voir deux activités majeures. Une activité autour des parents, particulièrement des mamans, où les jeunes filles prennent certains conseils pour leur vie future. De la jeune mariée, de la jeune maman. En ce qui concerne les garçons, ils sont souvent à l'écart, c'est-à-dire qu'ils vont un peu au-delà de la cour familiale pour apprendre à flûter, pour un peu apprendre certaines techniques de combat traditionnelles, pour apprendre les contes, les devinettes, et souvent même rencontrer d'autres jeunes. Ou aller simplement, pour ceux qui sont un peu plus grands, le soir au village, c'est aussi aller saluer sa petite amie, ce que nous appelons la fiancée. Donc c'est aussi ça le quotidien du jeune mouillant, qui reste jusque-là un quotidien envié pour ceux qui sont en ville.
Chaque année, le peuple mouillant organise une fête traditionnelle et cette année, elle s'est tenue les 24 et 25 mai dernier. Alors dites-nous, quelle est la symbolique de cette célébration pour le peuple mouillant?
Le peuple mouillant attache une grande importance à ces fêtes. Il n'y en a pas que celle-là, il y en a deux principales. Et ça n'organise pas en une seule date. La date que vous venez de donner, c'est la date du peuple de la fête de Semaï. Chez les mouillants de Golda Golda. Puisqu'il y a encore en juin, certainement d'ici une semaine ou deux semaines, les mouillants de l'autre côté, c'est-à-dire sur le canton de Palbara, vont aussi organiser la même fête. Bon, mais sinon, cette fête, c'est la fête de Semaï. C'est un peu pour implorer l'indulgence de Dieu, parce que nous sommes en train de nettoyer nos champs. Pour aller donc s'aimer et avoir des récoltes, pour que Dieu puisse nous accorder donc une bonne pluviométrie, que nous ayons à la fin de très bonnes récoltes. À la fin de celle-là, on aura une autre fête en novembre, pour dire merci à Dieu. Donc voilà les deux principales fêtes que nous avons, qui sont des fêtes traditionnelles. Ce sont les fêtes pendant lesquelles on donne tout à tout le monde, donc il n'y a pas d'amis. Tout ce qui est préparé, parce qu'on se dit souvent chez les mouillants que Dieu peut se transformer en cheval, en chien, ou bien il peut même entrer dans le corps d'un étranger. C'est pour cela que chez nous, il n'y a pas d'étranger pendant les fêtes. Tout le monde est le bienvenu pour donc partager ce que nous donnons à Dieu. Donc ce sont des moments très importants pendant lesquels il y a des sacrifices qu'on fait. Pour ceux qui font la tradition encore, qui sont dans cette religion traditionnelle, il y a beaucoup de choses qu'on fait, donc on fait des sacrifices. Et pour les autres, on partage simplement le bilbil et un peu de viande. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une chèvre, un bouc, un bœuf, même le coq est important.
D'accord.
Donc c'est vraiment un bon moment de régal et de retrouvailles chez les mouillants.
En terre mouillante, l'on a très souvent tendance à entendre parler de clans. Dites-nous donc quels sont les différents clans que l'on peut observer chez l'homme mouillant et qu'est-ce qui fait leur spécificité?
Le peuple mouillant est un grand peuple de 23 clans. Peuple de 23 clans regroupés en deux. nous avons un groupe d'Indavla qui sont en fait les clans du patriarche qui aurait fondé même les Mouyang, c'est-à-dire pour lui Anouaï, l'ancêtre, toujours considéré comme l'ancêtre des Mouyang, puisque c'est lui qui va donner naissance à 12 garçons qui vont donc fonder les 12 clans de Ndavla. Ceux-là, donc, il y a 12 clans, parmi lesquels il y a les Gozogol et les Pobar, les Gindili, qui aujourd'hui sont constitués donc les clans phares qui ont les deux chefferies, dont les deux cantons. Parmi les 6 cantons de Tokombéré, il y en a 2 qui sont des cantons Mouyang. Il y a un qui est tenu par les Palbara, donc l'un des fils d'Anouaï, et puis un autre tenu par les Gozogol, donc toujours l'un de ses fils, qui se sont retrouvés de part et d'autre de l'iceberg Mouyengue, que les géographes connaissent bien. Donc c'est une montagne qui ne touche pas, qui est un peu à l'écart de la chaîne montagneuse de Mont Mandara. Donc ben, les Mouyans se sont donc retrouvés donc, tout autour pour former cela. Et parmi ces clans, il y a donc les autres clans, c'est-à-dire les nouveaux, ceux qui sont venus, parce que les clans Mouyang, selon l'histoire, ces peuples seraient venus depuis le 15e siècle. Ils sont venus depuis Maya, traverser Mora et toute la zone là pour venir un peu s'arrêter autour de ces montagnes. Et avec l'invasion donc musulmane et autres, ils se sont retranchés dans les grottes et autres, et finalement pour constituer ces deux groupes, grands groupes. Donc les nouveaux qui sont venus jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire du XVe jusqu'au XVIIe siècle, on a par exemple les Mouvaraï, c'est un détachement du peuple musulman qui s'est retrouvé aussi de ce côté. On a les autres peuples qui ont formé donc autour d'un autre, dont les Gapalam et les Gidjila, ils ont formé ce qu'on appelle les Mengouji. Donc eux se forment donc avec ces nouveaux venus un autre groupe. Et ce sont les deux groupes donc qui font qu'aujourd'hui le mariage chez les Mouyans, c'est pas facile, parce qu'à l'intérieur des clans qui constituent un groupe, il y a pas de mariage. Il va falloir faire avec les membres des clans de l'autre groupe pour pouvoir par exemple former une famille. Donc c'est un peu dans ce sens-là les particularités de ces groupes. Je pourrais dire peut-être au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, les Gozogol, ils ont presque les chefferies, tant traditionnelles que les chefferies aujourd'hui modernes, que nous, on a souvent appelé les chefferies administratives, puisqu'il y a un chef de culte, un chef chargé de l'administration, qui est en contact avec l'administration moderne. Et puis les autres clans aussi sont des petits chefs qui sont comme des ministres. Bon, vous aurez donc un clan qui est chargé de l'agriculture, qui se charge de toutes les pratiques relatives à l'agriculture. Un autre clan chargé, par exemple, de champs. Bon, là, je ne sais pas comment ils ont organisé. Un autre qui est chargé, par exemple, de mode avocat pour organiser les fêtes du Nouvel An. Un autre qui est chargé de bonnes semences et surtout de bonnes récoltes, les gadraï, à qui on a souvent attribué une étiquette, mais c'est juste parce que c'est un étranger qui est venu un peu tard. Ce sont les derniers venus, peut-être vers le 19e siècle. Donc un peu ce sont ces particularités-là, mais il n'y a pas de particularités relatives au clan. Nous sommes tous des frères et on a presque les mêmes caractéristiques.
Quels sont les rites qui constituent ou alors qui font la base de la tradition chez le peuple Mouyang?
La base de la tradition chez le peuple Mouyang, c'est d'abord l'observation de certains interdits. On en a beaucoup et c'est ça qui fait l'homme Mouyang. L'homme Mouyang, c'est celui qui doit respecter d'abord, parce que quand on parle des rites, je parlerai d'abord des sacrifices. Il y en a plusieurs. Parce que chez nous, il y a les funérailles qu'on connaît aujourd'hui au temps moderne. Chez nous, en fait, ces funérailles ne se font pas. C'est un peu un moment de rassemblement de toute la famille, un moment aussi de règlement des problèmes. Nous avons d'autres rites, par exemple, pour les mariages, il faut purifier, si jamais il y a des problèmes de mariage, il faut purifier la jeune fille ou le jeune garçon. Chez nous également, lorsqu'il y a des... Avant, bien avant, ça c'est bien avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus trop. Mais avant, quand il y avait d'adultère, surtout la fornication, on clouait les deux. C'est-à-dire, on les sacrifiait aux animaux sauvages pour purifier. Il y avait des traditions, il y avait des sacrifices qui demandaient pratiquement... la chair humaine, aujourd'hui ça n'existe plus, ça fait, nous ce n'est plus notre génération, ça reste des contes. Mais ce sont les sacrifices qui existent aujourd'hui, quand il n'y a pas de pluie, aujourd'hui on a remplacé tous ces éléments à part des animaux. Mais ce sont les sacrifices qui existent, il y a toujours ces rites. Il y a aussi pour les semailles, il faut souvent purifier les champs. Quand il y a l'adultère, il faut toujours offrir, aujourd'hui il faut offrir plutôt quelque chose, une chèvre qu'on va égorger, asperger le sang partout dans un peu au champ et offrir la viande à tout passant. C'est-à-dire que ce sont des, il y a plusieurs éléments, donc on en a beaucoup. Il y a les rites, par exemple, même de l'enfance. À un moment donné, je ne sais pas comment vous imaginez que l'enfant, pour lui apprendre certaines choses, il doit faire son sacrifice lui-même. Ce n'est pas un sacrifice très sérieux. Mais là aussi, tout ça, c'est pour qu'il y ait une bonne dentition, qu'il y ait beaucoup de chance, donc il y a beaucoup de choses que nous faisons. Donc il y a beaucoup de choses qu'on saurait citer ici, mais déjà, l'homme mouillant, c'est un homme qui est attaché à sa tradition, caractérisé par tous ces tabous que je viens de citer, c'est-à-dire qu'il doit se méfier, qu'il ne doit pas toucher sa sœur, qu'il ne doit pas toucher donc, la sœur, la parenté sacrée. La femme de son de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quand l'adultère était vraiment proscrite. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voudrait pas que l'homme mouillant ne fait pas. Et finalement, bon, je pense que c'est ça qui caractérise d'ailleurs l'homme mouillant, d'où le respect de l'étranger et tout cela, parce que la vie est sacrée, pour me résumer.
Ok. Comment se passent les mariages en terre mouillant?
Le mariage, c'est le moment le plus important de la vie d'un mouillant. Tout à l'heure, je vous parlais du cycle de vie de l'homme mouillant. Il y a la naissance, oui, bon, on peut dire la jeunesse, l'adolescence et tout cela. Mais le mariage, chez nous, c'est quelque chose de très sacré. Déjà, il y a la sélection de la jeune fille. Avant, c'était un arrangement entre familles, c'est-à-dire... on ne pouvait pas trop attendre la vie du garçon, sans toutefois aussi négliger celui-là. C'est-à-dire que chez nous, les parents, le papa doit, ça c'est son devoir le plus absolu. Quand il a un garçon, il a le devoir de lui donner une femme et un chien. Ça c'est même son héritage là-bas. Après ça, il ne peut même plus avoir droit à autre chose. Et cette femme, généralement, le papa choisit parmi les filles de ses amis. Donc ça dépend même des moyens de la famille. On peut même venir vous proposer, puisque si vous êtes un peu riche, on peut vous proposer plusieurs filles, déjà souvent dans le ventre de leur maman ou bien encore enfant. Et le garçon n'a pas le droit de refuser. Ça c'est la femme que le père lui donne. Ce qui fait que la polygamie devient une affaire très régulière, parce que quand il accepte cette femme venue de ses parents, lui-même en tant qu'homme doit avoir sa propre femme, c'est-à-dire celle qu'il va choisir et qui va aussi le choisir, parce que là il va aller la draguer, ça peut même se passer pendant 2, 3, 4 ans. Il va venir aider la belle famille sans qu'il y ait la femme à la maison, se disputer la femme avec d'autres prétendants. Donc, il va peut-être prendre, donc, l'épouser parce que la femme l'aime. Donc, il y a ce côté amour. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas aimer et ne pas respecter celle qui est à la maison. Donc, ça fait déjà deux. Et s'il a les moyens, il peut avoir une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Puisque avant, la femme, le nombre de femmes et le nombre d'enfants était synonyme de richesse. C'est-à-dire que... Donc, le mariage, quand... On a choisi, quand il y a la jeune fille, on va de temps en temps aider les parents, c'est-à-dire dans leur champ, pendant les cultures. Aujourd'hui, c'est vrai que l'argent est venu tout changer, mais ce n'était pas un signe d'une quelconque dot. C'était juste de l'entraide, un peu pour plaire à la belle famille. Donc, on ne remboursait pas ça. Parce que généralement, la dot, on rembourse quand on n'obtient pas le mariage, mais là-bas, on ne rembourse pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a souvent vu des scènes où les gens se sont fait rembourser. Mais sinon, il vient avec quelques amis pendant la période de culture, aider la belle famille, pendant la période de récolte, surtout des arachides ou bien du coton aussi, les aider, donc un peu pour soulager sa belle, sa future belle-mère, ça, pour leur plaire aussi. Mais tout ça, c'est pour un peu plaire à sa dulcinée, à sa fiancée, si je peux l'appeler comme ça. Donc après ça, le mariage, généralement, chez nous, il n'y a pas trop de cérémonies. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui doit servir de courroie. Et celui-là, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de lettres, il y a toujours quelqu'un qui sert d'interface entre la jeune fille et... Quand elle a besoin de quelque chose, il veut qu'il se rencontre quelque part et autre. Il doit passer par cette personne qui peut être une femme adulte ou une autre jeune femme.
D'accord. Et est-ce qu'un homme qui n'est pas mouillant peut épouser une fille mouillant?
Bien évidemment. Mes arrière-grand-mères, il y a une qui est beaucoup. L'arrière-grand-mère de mon père, et sa maman directe, c'est-à-dire ma grand-mère, elle est Mada. Mon père a épousé des femmes Molko, des femmes Zulgo et autres. C'est pour dire que chez nous, justement, d'où l'hospitalité de tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on n'a pas une particularité. Le mouillant, c'est celui-là qui n'est pas enfermé sur lui-même. Donc, il est toujours ouvert. Et c'est pour cela que... Et comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà, la difficulté au niveau des regroupements des clans fait que ce n'est pas facile d'avoir... parce que dès que les parentés passent à une autre génération, c'est difficile d'avoir... des femmes. Donc, souvent, on est obligé de sortir pour aller épouser ailleurs.
D'accord. Et parlons gastronomie à présent. Existe-t-il des mets propres aux mouillants, si oui, lesquels?
Chez nous, aujourd'hui, on parle de poulet mitigé. Je ne sais pas, vous en avez déjà mangé. Le poulet mitigé, il y a toujours cette je ne peux pas dire arôme. Bon, les gens appellent ça cube magé, mais sinon, ils pourraient appeler arôme. Fait, par exemple, des graines d'oseille pilées. Qu'on utilise pour assaisonner les... Ça, c'est le mitoui, le mitoui chez nous, c'est là. Il y a aussi, bon, au-delà du mitoui, il y a le mbrda qui n'existe plus trop. Mais ça, c'est propre à l'homme mouillant, c'est-à-dire que c'est un peu de haricots qu'on fait pourrir pendant des semaines. Il y a donc aussi cette nourriture aujourd'hui auquel les gens recourent encore, ce menu, je veux dire. Donc le mazakwa, c'est-à-dire on fait pourrir pendant une ou deux semaines un peu de viande de chèvre, c'est-à-dire une chèvre entière ou un bouc entier qu'on pile à la fin pour diminuer un peu le cholestérol et autres. Donc tout ça, ce sont des choses. Et puis pour aussi pouvoir conserver le plus longtemps possible. Ce sont des choses qui existent chez les mouillants, donc ils sont un peu propres au peuple mouillant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve ça chez d'autres peuples, mais c'est beaucoup plus chez les mouillants qu'on retrouve ces choses-là.
Parlons à présent de votre association, l'association dénommée Kamdala, dont vous êtes secrétaire général. Dites-nous que signifie Kamdala et quelle a été l'idée fondatrice de cette association-là?
Kamdala est une... Au début... c'était une association des jeunes mouillants scolarisés. En fait, après de nombreux échecs au concours et surtout aux examens officiels, les jeunes se sont regroupés pour déjà identifier les difficultés et pour voir comment est-ce qu'il faut pallier tous ces éléments-là, notamment déjà l'éducation de la jeune fille qui piétinait, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup, qui dépassait le second cycle de secondaire. Donc, vers les années 2005-2006, on s'est rassemblés. Bien avant nous, il y avait déjà une autre association de ce genre, qu'on appelait le Congrès des jeunes mouillants, finalement, qui rassemblait déjà une fois par an. Mais quand on est venu avec Kamdala, c'était donc les deux éléments. Il fallait donc avoir parmi nous, pourquoi pas des médecins aussi, comme tout le monde, comme les autres peuples, on n'en avait pas, ou des professeurs déjà du lycée, on n'en avait pas, des infirmiers, tout ça. Donc, Déjà, il fallait voir pourquoi les Mouyans n'évoluaient pas dans ce sens. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas une élite? Parce que, donc on s'est dit que pourquoi pas s'organiser de l'intérieur avant d'aller voir des problèmes de l'extérieur. Donc, c'est comme ça que cette association est née, déjà au nom toujours du congrès de jeunes Mouyans, qui est devenu Kamdala, pour un peu emprunter au compte de Chedei. Tout à l'heure, j'ai parlé de Lengi, c'est-à-dire Lien, qui partait à cette fête Kamdala, c'est-à-dire un rassemblement des frères. Mmh. Et Kamdala, finalement, a pris donc cette allure de fraternité, de rassemblement de toutes les générations. Donc, pour ne pas s'arrêter seulement aux jeunes Mouyans scolarisés, il fallait intégrer les autres générations, il fallait intégrer d'autres éléments qui sont ici d'apprentissage de notre culture, pour notre enracinement d'abord. Donc, pour évacuer certaines questions des problèmes intergénérationnels, et c'est comme cela qu'en 2008, je pense qu'en 2008, nous avons le congrès de 2008 a été donc baptisé Kamdala Mouyan. Donc, jusqu'aujourd'hui, cette fête est appelée comme ça, et c'est comme ça qu'il y a eu des branches de Kamdala. Donc, finalement, qui s'est mué en regroupement, en association. Légalisé par ailleurs et ailleurs, il y en a qui fonctionnent. Par exemple, nous avons une branche à Maroua, on a une branche, il y a plusieurs branches à Tocombéré, il y a même des branches par établissement secondaire. Il y a une branche à Douala, à Yaoundé, à Garoua aussi. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais l'idée derrière tout ça, c'est la promotion de l'homme Mouyan dans son intégralité.
D'accord.
La promotion culturelle, la promotion même intellectuelle, la promotion, donc tout ce que vous connaissez, professionnel et tout ça. Parce que pendant nos rassemblements, il y a beaucoup de conseils, puisqu'il y a toutes les générations, d'où Kamdala, rassemblement des frères, donc il y a toutes les générations, et on se donne des conseils, on s'encourage, et finalement, on a quand même eu quelques résultats.
D'accord. Kamdala date de combien d'années?
Comme je le disais tout à l'heure, c'est à partir de août-septembre 2005. Donc, s'il faut calculer, ça fait pratiquement ça fait 12 ans, voire plus, 17 ans. Je pense que, bon, dans tous les cas, c'est depuis 2005. Mais le nom Kamdala, c'est à partir de novembre 2008. Le nom Kamdala a été donné. Donc, finalement, on a un journal qu'on publie, dont j'étais rédacteur en chef, appelé Nahma. Et c'est dans le numéro de novembre-décembre 2008 que ce nom a été donné à cette fête qui devrait donc se tenir en 2009. En fait, c'est le congrès de 2009 qui a pris ce nom de Kamdala et finalement qui a été donné à tout le monde. Mais sinon, l'association est née en 2005.
Et qu'est-ce que vous faites pour la promotion de la culture Mouyan dans l'association?
Pour la promotion de la culture, il y a plusieurs activités. Déjà au niveau linguistique, on invite les parents qui viennent souvent nous dire les contes, qui viennent nous dire des proverbes. Et pendant ce temps, on essaie de voir souvent certains mots difficiles que nous, jeunes générations, n'arrivons pas à prononcer, voire même à comprendre, qui sont souvent relevés et puis expliqués. On a souvent aussi invité des parents pour venir nous expliquer certains proverbes. Au niveau même de notre culture, au niveau des mets, par exemple, traditionnels, on a souvent invité des mamans de plus de 70 ans pour venir expliquer déjà les recettes, apprendre aux jeunes filles. Et puis, il y a eu des concours de cuisine. Et il y a aussi souvent des compétitions de flûtes, de danses traditionnelles, par village, par génération. On a souvent appris à redécouvrir nos anciens secrets de combat, puisque c'est un peuple de guerriers. C'est cela que je vous disais tout à l'heure, que le peuple Mouyan se dit que c'est un peuple qui n'a jamais été dompté. Donc, il y a c'est tout cela. Donc, on revient souvent sur certaines pratiques qu'on peut moderniser. Par exemple, la fabrication de tissus traditionnels qu'on apprend encore aux jeunes générations. C'est vrai qu'on n'a pas eu les moyens nécessaires de mettre un accent là-dessus. mais ça reste parmi les objectifs majeurs. Et puis, les contes aujourd'hui sont, puisqu'il y a tout un comité de littérature, donc d'abord avant, piloté par l'Académie Mouyant, mise en place depuis 1985, et finalement aussi associé à ce qu'on appelle aujourd'hui le comité de littérature Mouyant, donc piloté par la CIL et les Mouyants de l'Église protestante, qui aujourd'hui ont eu à traduire la Bible, à produire le dictionnaire et tout cela. Donc voilà à peu près tout ça. Mais notre plus grand objectif dans tout ça, c'est la sensibilisation du peuple, la vulgarisation de l'école, de certaines pratiques de santé. Mm-hmm. Puisque parmi nous, aujourd'hui, j'ai parlé des médecins au début, aujourd'hui, on en compte déjà 4 ou 5. Donc, ce qui fait que on arrive à toucher de doigt certaines choses et à appeler, à amener nos jeunes frères à aller plus loin. J'ai parlé de la jeune fille qui nous dépassait par la classe de seconde. Aujourd'hui, on en a qui sont déjà à l'école de médecine. Mm-hmm. Il y en a qui sont déjà sur le terrain. Il y a des grands professeurs, il y a tout ça. Donc, on a des journalistes comme vous aussi.
D'accord.
Ce qui fait qu'on a fait un pas.
Quelles sont jusque-là les œuvres de façon concrète de votre association?
Concrètement, c'est déjà la sensibilisation. Parce que la question de fond était d'amener le peuple à se connaître, à identifier les difficultés qui freinent son développement. Mais sur le terrain, je pense que si vous voulez des choses palpables, il y a les créations des écoles primaires qui ont été proposés justement au cours des associations des Mouyants. Mm-hmm. Il y a d'autres associations que Kamdala, puisque il n'y a pas que Kamdala, nous avons d'autres associations qui ont souvent aidé. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de choses, par exemple les dons en table-banc, les dons en fourniture scolaire, les paiements, par exemple, de la scolarité de certains enfants, des étudiants, mais surtout aussi, ce que nous pouvons citer aujourd'hui, c'est que nous assistons aujourd'hui, il y a une révolution, une grande révolution, parce que avec l'appui des PNDP et autres, nous avons des magasins, par exemple, pour le stockage de d'oignons et autres, qui sont nés de ces sensibilisations. Sinon, on peut citer même les constructions de salles de classe. Mm-hmm. Il y a des cotisations qu'on fait souvent pour des cas précis, pour l'assistance à certains frères en difficulté.
D'accord.
Donc voilà, autant de choses. Je pense que peut-être avec votre appui, puisque ça fera un plus, peut-être que vous allez nous aider à sensibiliser davantage.
Pour finir avec cet entretien, quel message pouvez-vous adresser à la communauté Mouyant qui nous écoute?
À la communauté Mouyant, je dirais déjà merci pour ce parcours, parce que j'ai été presque au début de tout ce que je viens de citer en ce qui concerne le Kamdala, par exemple. Ça veut dire que c'est un peuple qui écoute sa jeunesse. Je voudrais leur demander de rester persévérant, d'être audacieux, d'oser, parce que on ne peut pas se développer en étant enfermé sur nous-mêmes. Je voudrais dire d'abord où c'est Mouyant. Et de gardam yamanzu ki biyo apsa grivu krumara ki hiti aradomsi makhdokwana kama e zarmuyan de mi gida kani ya kar di mishdani kamti ya fa mishda nga buti ya fegela biti kamam mumbrang sudai mumbrang lam yatara ka badani e sim bifun ara na buza mingeli yati ndai ya tapata tinti ma bedef kar bilinti akadia modum kamdaliti akaba adirba akaba Adzinaïti, Aralam, Nende, Mbedeve, Giblinti, Mako, Kamkama.
Monsieur Bébé Théodore, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
L'émancipation, l'autonomie, l'égalité homme-femme est concrète et fait ses preuves. Sans réserve, des femmes s'adonnent à des activités ou métiers jadis étaient uniquement réservés ou exercés par des hommes. C'est le cas des travaux traits à l'électricité, à la mécanique, à la peinture et même à l'activité de moto-taxi. Madame Fadimatou, par exemple, s'est défait des pesanteurs socio-culturelles. Elle est de formation agent technique en réseau. Et là, elle est en service à Kamtel-Maroua. Nous l'avons rencontrée et avons partagé avec elle sa passion d'agent technique, métier qui est exercé au cœur de plusieurs collègues hommes. Nous lui avons demandé ce qui lui est poussé à suivre une telle formation.
Dites-nous, quelles ont été vos motivations par rapport à ce métier lié à la technique, quand on sait que jadis, tout ce qui est technique était considéré comme des métiers uniquement réservés aux hommes?
Merci. Bon, je vais dire, bon, motivation, pour dire la vérité, en fait, c'était carrément le destin. Puisqu'au départ, ayant eu mon bac scientifique, je voulais faire la médecine. J'ai fait le concours, je l'ai raté. Bon, maintenant, il fallait chercher ce que j'ai sous la main. On a lancé dans la ville un concours d'une école de télécommunication. J'ai postulé et puis j'ai réussi le concours. Et puis, ben, c'est là où j'ai vraiment découvert le monde des télécommunications et c'est là où j'ai été le déclic, quoi. Non, en fait, c'est ça. Ma motivation, je dirais que c'est le destin parce que je n'étais vraiment pas prédestinée. Mais quand je suis entrée dedans, ouf, c'était vraiment, je vais dire, mon domaine de prédilection, quoi. Voilà, c'est un peu ça.
Et là, quel est le regard de vos collègues, votre entourage, bref, la société vis-à-vis de vous par rapport à votre travail vu que vous êtes une femme?
Disons que le premier regard, pour être honnête, c'est la surprise. Parce que les collègues, quand on voit une jeune dame technicienne de surcroît nordiste, vraiment, c'est la surprise au premier bout. Bon, maintenant, avec la prise de contact, la façon de collaborer, ils se rendent compte que nous sommes sur la même longueur d'onde et puis, bon, ça va. Ça se passe plutôt bien avec les collègues, ça se passe bien.
Okay. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre lieu de service?
Disons que la première difficulté qu'on a en général dans le domaine technique, c'est le problème de ressources humaines. Beaucoup de jeunes préfèrent le domaine, l'administration. Ils préfèrent l'administration que la technique. Bon, je ne sais pas si c'est à tort, mais par contre, si on voit vraiment l'évolution du monde et avec la position notamment des télécommunications, on se rend compte que vraiment actuellement la communication a une grande part et qu'elle se retrouve même d'ailleurs dans tous les domaines. Et j'appellerais vraiment beaucoup de jeunes à intégrer le domaine technique puisque de nos jours l'administration a montré ses limites. L'administration c'est bien, mais quand il y a trop de personnes dans l'administration, c'est pas bon. Qui va faire tourner le pays? Il faudrait qu'on ait des techniciens, des gens aptes dans la société. Mais sinon, au niveau du travail même, vous savez, la machine sait bien le faire. Hein. Actuellement, on a des technologies de pointe, des infrastructures de pointe. Donc, c'est vrai, à tort, on pense que c'est le travail manuel, physique, il faut la force. Mais non, on a des équipements, des infrastructures de pointe qui font tout le travail. Je dirais que la machine, vraiment, sait bien le faire. Si tu maîtrises ce que tu fais, tu es à même de t'en sortir.
Maintenant, quel message adresseriez-vous à ces jeunes filles qui nous écoutent et qui, tout comme vous, souhaitent faire dans la technique?
Le message que je voudrais adresser à mes jeunes sœurs, c'est de ne pas hésiter du tout. De ne pas hésiter d'entrer dans le domaine technique, puisque de nos jours, la technique est devenue tellement facile. Ce n'est pas comme avant où il fallait travailler dur, être un homme. Actuellement, il y a, comme je disais tantôt, de la technologie des infrastructures de pointe. Donc, ce n'est pas compliqué comme on le pense vraiment. C'est même en fait le domaine le plus facile, puisque c'est plus facile de gérer les équipements que de gérer les ressources humaines. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, en fait, je les amène vraiment à ne pas hésiter, à persévérer. Puisque de toutes les façons, actuellement, de nos jours, ton premier mari, c'est ton boulot. Hein. Voilà. Les jeunes filles qui veulent rester, qui comptent seulement sur le mariage, là, ça a montré ses limites.
Bien, Madame Fadimatou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Donc, je vous en prie, c'était un plaisir.
Merci. Voici une autre qui a, tout comme Madame Fadimatou, compris que les femmes peuvent aussi exercer des métiers d'hommes. Grâce Maïwan Félicité s'est donnée à l'activité de moto-taxi et se plaît bien de cela car elle parvient à subvenir à ses besoins sans problème, même comme elle souligne que beaucoup trouvent que cette activité n'est pas digne d'elle. Nous sommes allés à sa rencontre, question de savoir quelles ont été ses motivations. Écoutons cet entretien mené.
Grâce Maïwan Félicité, merci de répondre à nos questions. Avec vous, nous parlons de votre activité de moto-taxi, une activité qui jusqu'ici est considérée par beaucoup comme un métier uniquement réservé aux hommes. Alors dites-nous premièrement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité?
Bon, ce qui m'a poussé à me lancer dans cette activité, c'est que j'ai les amis garçons que je marche précisément avec eux. Ils faisaient la moto, c'est comme ça que je me suis mise à essayer la moto. Et puis, ça m'a plu comme quand ils sortent pour aller aussi travailler. J'ai demandé une fois à un de mes amis de me donner la moto. J'ai essayé, ça m'a beaucoup plu et ça m'a touchée. C'est pour cela que je me suis lancée dedans et ça m'aide beaucoup.
D'accord. Et quel est le regard que vous portent vos parents, vos oncles, frères et autres lorsque vous exercez ce métier qui, entre guillemets, est considéré comme métier d'homme, étant donné surtout que vous êtes une femme?
Bon, au début, mes parents ne voulaient pas, me voyaient bizarrement, me parlaient, me grondaient même, mais quand ils ont vu, je me suis lancée, je m'en sors bien, ça les a beaucoup plu et ils appréciaient. C'est un peu ça.
D'accord. Et vos prétendants, comment est-ce qu'ils perçoivent cela?
Bon, au début, ils me disaient toujours que qu'est-ce que tu veux, demande-moi, je vais te donner. Ils me demandaient toujours pourquoi tu fais ça, c'est seulement ça que tu as trouvé comme métier pour faire. Moi, je les ai dit que ça, c'est le métier qui me plaît, ça me plaît beaucoup, c'est pour cela que je me suis mis dedans. Que moi-même, je veux m'occuper de moi, donc quand un homme s'occupe de moi... Je me vois bizarrement, c'est trop bizarre. C'est pour cela que je veux me battre pour me faire plaisir.
Et est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés dans l'exercice de cette activité?
C'est que il y a toujours les difficultés. Quand peut-être une ma tête stoppe en route, te demande, dépose-moi à tel endroit, mais quand il voit sexe féminin, ça le fait bizarre. Elle mal parle de toi. C'est un peu ça. Donc,
Et au quartier,
quand je sors pour aller travailler, on dit toujours que regardez la fille qui fait la moto. Et comme moi, je n'ai pas le temps de gérer tout ça, je ne suis pas toujours moi travailler ma chose.
D'accord. Pour finir, quel message à ces jeunes filles qui nous écoutent et qui considèrent elles aussi certains métiers comme seulement réservés pour les hommes?
Tout simplement, tout ce que je peux leur dire, on est au Cameroun. Tout travail n'est pas seulement... comme ce genre de travail, tu peux pas te dire que non, c'est seulement pour le garçon, pour les hommes. Non. Si tu peux, touche à tout. Pour pouvoir subvenir à tes besoins. C'est pas parce que tu vois un homme, il fait ça, tu dis que tu peux pas. Tant que tu peux faire ça, fais-le. C'est tout ce que moi, je peux dire aux filles comme moi.
Grâce, Maïwan Félicité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi, ça.
Comme Madame Fadimatou et Grâce Maïwan Félicité, elles sont désormais nombreuses. Voir aujourd'hui des femmes exercer des métiers ou activités qui autrefois étaient réservées aux hommes est une très belle initiative et un pas de plus pour la gente féminine. Pour le public, c'est une réelle satisfaction et ils trouvent en cela une concrétisation de l'épanouissement de la femme de l'extrême nord. Toutes les portes leur sont ouvertes, elles sont aptes à tout. Écoutons quelques avis recueillis.
Les femmes qui font aujourd'hui le travail qui était réservé aux hommes auparavant, je pense qu'elles ne le font pas de gré. Je crois que c'est la souffrance qui les pousse à se mettre à l'œuvre, qui les amène à travailler. Ce qui n'est pas réservé en fait aux femmes. Quand tu vas voir une femme en train de faire la moto-taxi ou bien d'être maçon, de fabriquer ses parpaings, les parpaings ou bien de ramasser du sable, ce sont les travaux physiques. Le travail physique, c'est la femme, même si on veut souvent dire que les femmes sont... Il y a l'égalité des sexes et tout, mais la femme de nature, elle n'a pas cette force que l'homme a quand il naît. Donc l'homme, on sait que physiquement, naturellement, il est fort. Mais la femme, elle doit d'abord travailler avant d'être forte. Sinon, de nature, elle n'est pas forte.
Parlant des métiers qu'exercent les femmes, ces métiers qui, autant jadis, étaient exercés par les hommes, je crois que c'est vraiment des choses à saluer. Puisque ce n'est pas écrit quelque part que c'est l'homme qui doit faire exercer ce genre d'activité. La gente féminine doit également être valorisée, elle doit également s'imposer au sein de la société et vraiment voir une femme peut-être chef maçon, ingénieur, électricienne et autres, c'est vraiment des efforts à saluer puisque par ces activités, les femmes s'imposent et promeuvent ainsi l'égalité ou bien la complémentarité également.
Bon, déjà, ce que je peux dire par rapport au fait qu'il y ait des femmes qui se retrouvent en train de faire le travail des hommes, c'est, de mon point de vue, je trouve que c'est encourageant. C'est très important parce que d'emblée, c'était les hommes, on savait que non, c'est un homme, l'homme doit faire dans l'électricité, la plomberie, la maçonnerie. Mais aujourd'hui, la femme a compris que oui, c'est possible pour elle de se battre. C'est l'émancipation de la femme a contribué de telle sorte qu'aujourd'hui, on retrouve des femmes qui font de la maçonnerie, on retrouve des femmes qui font dans l'électricité. Et je trouve ça tellement beau parce qu'on se dit que non, la femme est réduite au sexe faible. Parce qu'on se dit que non, c'est compliqué pour une femme peut-être de porter des gros fardeaux sur la tête, peut-être de monter sur un poteau électrique pour essayer de rétablir l'électricité ou alors de résoudre un problème quelconque qui a trait à l'électricité ou alors de se pencher sous un tuyau pour faire de la plomberie. Donc moi je trouve que c'est très encourageant et c'est motivant.
Bon, selon moi je dirais que c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce que les femmes ne doivent pas travailler le travail des hommes? Ce n'est pas bien parce que dans le monde entier même l'on prône l'égalité du genre. Alors pourquoi dire une femme ne peut pas être électricienne? Pourquoi une femme ne peut pas faire ceci, faire cela, un travail qu'un homme peut faire? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Si dans le monde entier même, l'on prône l'égalité du genre.
Je pense que les femmes techniciennes, électriciennes et bien d'autres, c'est vraiment un métier à encourager. Je considère, je perçois ces femmes-là comme des modèles à suivre. Et cela peut booster le moral des autres, des jeunes filles actuellement qui se livrent à des activités de paresse, qui n'ont rien à faire, qui passent leur temps peut-être à se maquiller, rester là, à attendre.
Moi je trouve ça c'est une bonne chose, hein. Ça permet de concrétiser l'épanouissement de la femme. Parce que la femme ne se limite pas qu'à la cuisine. Elle doit se chercher ailleurs aussi des travaux autrefois réservés aux hommes. Donc on voit maintenant que les femmes aussi peuvent le faire. Et je trouve ça génial, je trouve ça bien. J'encourage les femmes qui le font.
Elles sont devenues comme des pierres précieuses, difficile de les trouver. Les pièces de monnaie qui auparavant étaient tellement accessibles se retrouvent aujourd'hui en voie de disparition. Mais pour quelles raisons donc, se demandent bon nombre de commerçants qui voient leur activité tourner au ralenti du fait de cette rareté de monnaie qui ne leur facilite pas la tâche avec leur clientèle. Entre laisser partir le client ou garder sa monnaie, des situations d'incompréhension, elles par contre, ne se font pas rares. Et lorsque c'est le client qui repart avec son billet pour rembourser après avoir eu la monnaie, c'est par coup de chance si certains reviennent réellement. Les commerçants sont excédés. Écoutons quelques-uns d'entre eux.
par rapport aux pièces, oui, vrai que les pièces nous dérangent. Même moi aussi, je suis un boutiquier, je vends. Même et les clients souvent qui viennent dire que non, tu peux même acheter quelque chose là, les pièces dérangent. Et les clients qui disent que, fait que moi aussi, je garde la monnaie et les clients repassent le soir, viennent prendre. Et les clients qui disent aussi qu'ils ne veulent pas. Donc, à vrai de dire que les pièces nous dérangent pas mal.
L'histoire de la monnaie, nous les boutiquiers, on souffre vraiment. Il y a deux fois, le client vient comme ça, il n'y a pas la monnaie, il laisse partir. Mais il y a deux fois aussi, il y a les bons samaritains qui nous amènent souvent les pièces qui nous changent. Et parfois, on laisse ça passe comme ça, les clients partent. Souvent aussi, je gère par Orange Money.
Bon, mindo kap da bani mantan bon to kliang war to kliang ma munya ni bon munya bani manche de ma kuruta to lora ke wara ujaba bani mantan mindo kap da bani mantan bon foti go do wara be sengsangi di kuje desang go acha tro asang mun to lor to hebi ma se bon to he bay bokang fu andi chew di sadi o munya man to journal.
À propos de la monnaie, c'est ça qui fait véritable problème surtout. On ne parvient pas à s'en sortir. Si on veut acheter quelque chose, par exemple, de 1000 francs, on te tend 10 000 ou 2 000. Dans 10 000, tu ne parviens pas à gérer la personne. Ça fait défaut quand même.
Et dans ce cas-là, vous faites comment?
Bon, on n'a pas le choix. On essaie de voir le voisin. Dans le cas où tu ne trouves pas, tu n'as pas le choix. Tu restes seulement.
Je suis Paul Hada. Lalo, on a dit que je suis en train de me faire. Je suis un client qui a été réglé. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de
Je veux le truc de 200, il n'y a pas le jeton. Et les autres demandent, tu as Orange Money. Et c'est comment j'ai fait Orange Money, je dis oui. Bon, je peux acheter par Orange Money. Je vais dire envoyer. Bon, comment le maman, les enfants, il n'est pas le Orange Money, quoi là, par avec.
On n'a pas la monnaie sur le marché. Souvent, nous sommes obligés de laisser les clients rentrer avec notre argent. D'autres même reviennent pour remettre, d'autres ne reviennent même plus. D'autres même nous laissent leur argent chez nous pour venir prochainement récupérer leur argent. D'autres même ont ce chemin jusqu'à quereller parce qu'il n'y a pas la monnaie. Et nous sommes le défaut de la monnaie jusqu'à la dernière minute. C'est ça même qui nous empêche de vendre souvent. Par Orange Money, il n'y a pas de problème, on peut gérer par Orange Money. Mais il y a beaucoup de mamans qui ne connaissent même pas le problème d'Orange Money. Comme le nous, on peut gérer par l'Orange Money. Mais d'autres familles n'ont même pas le téléphone, ils vont gérer par l'Orange Money comment?
C'était si simple avant d'avoir un billet de 500 francs, acheter un article de 100 francs et être remboursé des pièces de 400 francs CFA. Mais aujourd'hui, cela est très rare, voire impossible même. Les clients, eux aussi, ne sont pas indifférents face à cette situation, vu qu'elle les impacte aussi bien sur leur achat que sur leur budget, car ils sont très souvent contraints d'improviser ou d'augmenter les achats du fait du problème de monnaie. Nous avons tendu le micro à quelques-uns d'entre eux.
Pour les problèmes de monnaie, c'est pas facile, c'est pas vraiment facile. Peut-être tu te retrouves à aller quelque part, la moto ça coûte peut-être 150, tu te retrouves en train de payer 200, 250, tout ça là c'est juste pour avoir la monnaie et c'est pas vraiment facile. Peut-être que tu pars à la boutique pour payer quelque chose, je sais pas trop, comme peut-être le demi-kilo du riz, peut-être 250, on te dit il n'y a pas la monnaie, tu es toujours obligé de laisser là-bas. Pour revenir après, peut-être tu as la tomate à la maison, tu as les cubes, tout, mais tu te retrouves en train de prendre tout ça là. C'est pour éviter l'histoire de problème de monnaie, mais ce n'est pas vraiment facile. Vraiment, aidez-nous à cela.
Les monnaies d'échange là, c'est vraiment difficile pour nous aussi là, surtout nous les clients, tout comme aussi les commerçants là, c'est pas facile pour nous. Tu te retrouves d'aller à une boutique, acheter peut-être ton pain chocolaté à 200 francs, tu vas avec 500, au lieu qu'on te rembourse les 300 francs, il n'y a pas de monnaie. Tu es assis, tu attends, quels sont les clients qui viennent. Chacun vient aussi avec les billets. Même jusque-là, il n'y a pas de monnaie. Parfois, tu te retrouves à laisser ton argent là-bas. Ça fait même des semaines, des jours. Il n'y a toujours pas de monnaie. Donc, les histoires de monnaie, là, c'est franchement difficile. Parfois, tu vas même prendre, là, avec les 500 que tu parles, là, tu es obligé une fois de finir, une fois tout l'argent là, non, pour que non, tu restes en paix que non. Là, tu n'as pas de monnaie dehors.
Hala chez Oudimano, on sait que vous avez 500, j'ai 200, bien sûr, j'ai 300.
Pour le problème de monnaie, c'est vraiment un problème qui est vraiment dépassant. Tu te rends compte que tu pars au marché avec un billet de 10 000. Tu fais les choses de 5 000, monsieur te dit soi-disant, il n'y a pas la monnaie. Avec le litre du qui a augmenté, tout et tout. Tu achètes même 2 000, peut-être 3 bouteilles ou 4. Monsieur te dit carrément qu'il n'a pas la monnaie, tu dois aller chercher.
La culture ne meurt que de sa propre faiblesse, nous dit André Malraux. Une culture ne doit en réalité jamais disparaître, et là, chacun a sa partition à jouer. Nous devons être les gardiens de nos cultures, les gardiens de nos traditions. Et quoi donc de plus normal qu'une émission comme Interligne pour immortaliser les cultures ? C'était avec un cœur enflammé de joie que nous étions en votre compagnie pour cette autre balade radiophonique. Dans Soir au village, nous étions en pleine découverte du peuple Mouya avec Monsieur Bébé Théodore, secrétaire général de Kamdala. Nous avons parlé avec lui du mode de vie de ces derniers et de leurs différents us et coutumes. Dans Tape à l'œil, nous nous sommes intéressés à ces femmes qui exercent des métiers qui, pour beaucoup, est seulement réservé aux hommes. Le public à qui nous avons tendu notre micro à ce sujet trouve en cela une bonne initiative de la part de la gente féminine. La rubrique Vie de ton sac, quant à elle, s'est penchée au problème de la rareté des pièces de monnaie. Les commerçants et les acheteurs, principales victimes de ce manque, tous ont vidé leur cœur dans cette édition d'Interligne. Édition d'Interligne dont il y avait Maxino à la mise en onde, David Bayan à la supervision générale, une présentation de l'idole Wawa. Auditeurs de Radio Océré, retenez que la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Bye bye et à l'édition prochaine.